corasso.org.
Corasso, association de patients qui informe et soutient les personnes touchées par un cancer ou un cancer rare tête et cou, plus communément appelé cancer ORL, vous propose un podcast consacré à la chirurgie laryngée. Pour répondre aux questions que se posent les patients, le professeur Béatrix Barry, chef du service ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Bichat à Paris, est avec nous. Bonjour professeur Barry.
Bonjour.
Dans ce podcast, nous abordons les conséquences fonctionnelles à long terme de la chirurgie laryngée. En termes de séquelles fonctionnelles, justement, que pouvez-vous nous dire ?
Alors, il va y avoir des séquelles essentiellement sur la voix. À partir du moment où on touche à la corde vocale et au larynx, on va modifier la voix. Donc le patient, en fonction du type d'intervention, va avoir une voix qui va être plus ou moins différente de sa voix initiale, en général un peu plus grave. Et la plupart du temps, il va falloir faire une rééducation pour essayer d'avoir les meilleurs résultats en termes de voix possible après l'intervention. Les séquelles sur la voix sont évidemment majeures quand le patient a une laryngectomie totale.
Sur l'alimentation ?
Et sur l'alimentation, à partir du moment où on fait une intervention de laryngectomie partielle, si c'est une intervention qui est un petit peu plus importante qu'une cordectomie simple, c'est-à-dire l'intervention où on enlève juste une corde vocale, cette intervention-là se fait par voie endoscopique et n'a peu de conséquences sur la déglutition. Mais à partir du moment où on modifie de manière un petit peu importante le larynx avec une laryngectomie partielle, surtout par voie cervicale, il va y avoir effectivement des difficultés à reprendre une alimentation normale. Donc on va demander au patient de faire de la rééducation avec une orthophoniste et de commencer à manger d'abord avec des aliments qui sont mixés, des potages, des compotes, des choses faciles à avaler. Et on fera boire le patient avec de l'eau en dernier recours en fait. C'est vraiment le plus difficile, ça va être de boire de l'eau puisque c'est la source de fausse route la plus importante. Par contre, le patient qui va avoir une laryngectomie totale, il va complètement perdre la voix, mais en compensation, si on peut dire, il n'aura plus aucun problème de déglutition. Parce que quand on parle de carrefour aérodigestif, là, il n'y a plus de carrefour, on sépare complètement la déglutition de la respiration.
En combien de temps peut-on ressentir une amélioration, notamment concernant l'alimentation ?
C'est assez variable en fonction des patients. La plupart des patients ont des progrès assez nets au bout d'un mois ou deux. C'est assez rapide.
C'est assez rapide.
Ça dépend des interventions. Il y a des interventions pour lesquelles la reprise de l'alimentation est plus difficile. Et puis, les patients qui sont jeunes vont avoir beaucoup plus de facilité à réapprendre à manger après une intervention de chirurgie partielle laryngée.
Peut-on parler des cicatrices ? Sont-elles importantes et où se situent-elles ?
Alors, on va essayer de plus en plus maintenant, dans la mesure du possible, de faire une chirurgie endoscopique, c'est-à-dire en passant par la bouche, par les voies naturelles, pour ne pas avoir de cicatrices. Mais lorsqu'il y a besoin de faire un curage ganglionnaire, c'est-à-dire d'enlever les ganglions, ou d'accéder au larynx par voie cervicale, on va avoir des cicatrices qui sont en général à la base du cou, qui se voient un petit peu, mais qui sont relativement discrètes. Mais effectivement, après une laryngectomie totale, on a une cicatrice en U qui peut faire jusqu'à 15-20 cm. Mais la plupart du temps, la cicatrice se voit assez peu, en fait. Les patients cicatrisent bien.
Et pour les cicatrices importantes, est-ce qu'il y a des techniques pour les atténuer ?
Alors, malheureusement, la radiothérapie a un effet positif sur les cicatrices. Donc, en général, les patients qui vont avoir de la radiothérapie après une laryngectomie totale ont des cicatrices qui se voient assez peu. Donc, c'est un effet bénéfique de ce traitement complémentaire. Et sinon, oui, il y a des moyens d'améliorer l'aspect de la cicatrice, soit en faisant des massages, soit en mettant des plaques de silicone sur la cicatrice. Mais en toute honnêteté, c'est rarement le souci principal des patients. Eux, ce qui les intéresse, c'est de parler et de manger.
De retrouver
un contact avec l'extérieur et de reprendre une alimentation orale le plus normal possible.
Quelles sont les plus grandes difficultés dont se plaignent vos patients dans leur vie quotidienne après une telle chirurgie ? Sans doute effectivement l'aspect social.
C'est quelque chose qui est surtout important pour les patients qui ont eu une laryngectomie totale parce que effectivement le patient ne se voit plus comme avant et n'a plus les mêmes interactions sociales qu'avant. Donc c'est ce qui pose le plus de difficultés. Après, pour les patients qui ont eu une laryngectomie partielle, une fois que leur entourage s'est habitué à la voix qui est un peu différente et qui est de moins bonne qualité, ils peuvent reprendre une activité normale. Ce qui est très difficile pour les patients qui ont du mal à manger au début, c'est de d'avoir un contact social, de partager un repas, alors que eux mettent du temps à manger et ont des difficultés pour manger. Mais souvent, ça s'arrange avec le temps.
Existe-t-il des séquelles et des effets secondaires suite à une chirurgie laryngée ?
Alors, la trachéotomie définitive de laryngectomie totale est effectivement une séquelle. Hein. C'est quelque chose qui est définitif et qui va rester. Et donc, le patient va avoir ce trou pour lequel on va travailler à le cacher, mettre un filtre pour protéger les voies respiratoires. Donc ça, c'est vraiment une séquelle. Et puis, il y a quand même des séquelles au niveau de la voix à partir du moment où on a touché à une corde vocale et enlevé un ligament vocal. Et puis après, si on fait une chirurgie ganglionnaire, il peut y avoir des difficultés de mobilité
des bras
et des épaules.
Le visage aussi peut toucher ?
Non, là, il n'y aura pas de... Les cicatrices, elles sont essentiellement dans le cou, elles-mêmes exclusivement dans le cou, donc elles ne se voient pas... Dès que le patient met quelque chose, un foulard, on voit pas qu'il a été opéré.
Quels sont les soins de rééducation à faire après une telle opération ?
Alors, cette rééducation, elle se fait en général avec l'aide d'une orthophoniste et elle se fait en deux temps, à la fois en termes de phonation et en termes de déglutition. Donc, il va falloir à la fois réutiliser la voix au mieux et travailler la respiration et la voix avec une orthophoniste. Et puis, en parallèle ou dans un deuxième temps, travailler la déglutition, c'est-à-dire apprendre des positions et des textures qui facilitent l'alimentation.
Et ça représente combien de séances par semaine ?
Alors l'idéal, c'est de faire quand même une ou deux séances par semaine pour voir un progrès. Et après, le temps de cette rééducation, il est très variable en fonction des patients et du type de chirurgie.
Après une chirurgie laryngée, les risques de fausse route sont-ils plus importants ?
Alors oui, évidemment, à partir du moment où on a modifié le larynx, il y a un risque de fausse route. Par contre, ce risque n'existe plus lorsqu'il y a eu une laryngectomie totale, puisque la respiration et la déglutition sont séparées. Mais chez un patient qui a eu une laryngectomie partielle, par voie endoscopique ou par voie externe, a un risque de fausse route. Et c'est à ça aussi que sert la rééducation. Et c'est pour ça que souvent, la rééducation, au départ, se fait avec une orthophoniste, en ayant une aspiration disponible pour que le patient puisse tousser et éliminer les aliments qui seront passés dans les voies respiratoires. Donc, il y a des précautions à prendre avant de faire une rééducation très active avec des liquides notamment.
Qu'est-ce que la voie œsophagienne ? Dans quel cas y a-t-on recours ? Et est-ce que cette voie œsophagienne est accessible à tous les opérés du larynx ?
Alors, la voie œsophagienne, c'est quelque chose qui est réservé aux patients qui ont eu une laryngectomie totale. Et en fait, c'est une voie qu'on obtient en rotant. En fait, hein, c'est une voie qui vient de l'estomac. Chez les patients qui arrivent à roter tout seuls, ils font avaler de l'air et ressortir l'air en parlant. Donc cette voie œsophagienne, c'est une rééducation qui permet de reparler sans aucun artifice extérieur aux patients qui ont eu une laryngectomie totale. Elle n'est pas du tout nécessaire pour les autres types de patients. Et cette voie, elle peut être tout à fait correcte, donner des bons résultats. Il y a des patients qui arrivent très bien à avoir une conversation en voie œsophagienne. Mais c'est beaucoup de travail pour obtenir une voix de bonne qualité par la voie œsophagienne.
Quels sont les différents types d'appareillage suite à une chirurgie laryngée ?
Alors l'appareillage, il se discute pratiquement exclusivement pour les patients qui ont eu une laryngectomie totale, évidemment, parce que les autres vont pouvoir parler et n'auront pas besoin d'artifice, même si leur voix n'est pas de bonne qualité. Et donc, il y a plusieurs techniques pour reparler après une laryngectomie totale. Donc, on a parlé de la voie œsophagienne, qui est cette voie que le patient va arriver à obtenir de lui-même. Sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle une prothèse phonatoire, qui est en fait une sorte d'interface qu'on va mettre entre la trachée et l'œsophage pour permettre de remonter l'air qui vient des voies respiratoires dans la bouche. En fait, on fait un petit court-circuit avec une valve qui va permettre au patient... Par contre, en appuyant sur sa canule de trachéostomie, ça va lui permettre de reparler. Donc, ça permet d'avoir une voix qui est très bonne qualité, qui est assez fluide et surtout qui permet au patient d'avoir une interaction facile avec l'extérieur. Le problème, c'est qu'on rajoute un élément extérieur et donc une prothèse avec les petites complications parfois inhérentes à une prothèse de fuite, de prothèse qui se bouche. Donc, c'est un excellent résultat en termes de qualité pour le patient et c'est quelque chose qu'il faut absolument proposer au patient si soit il est très demandeur de récupérer très vite une voix de bonne qualité, soit si la voix œsophagienne ne fonctionne pas.
Et comment se fait le choix ? Avec qui ? À quel moment ?
Alors le choix, il se fait avec le patient, on en discute avec lui. Et après, il y a quand même des équipes qui sont plus partantes pour mettre une prothèse phonatoire en première intention à tous les patients. Il y a d'autres équipes qui sont un peu plus réticentes. C'est un choix qui doit se faire avec le patient. Il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé, qui est un dernier type d'appareillage qui, en général, n'est pas très sympathique en termes de qualité de la voix, mais qui peut rendre service et qui est souvent un dernier recours, qui est ce qu'on appelle un laryngophone. Et c'est une sorte d'appareil qu'on va mettre sur le cou et qui va donner au patient une voix de robot. Et donc, cet appareil, il est utilisé chez les patients pour qui n'ont pas de voix œsophagienne spontanée ou acquise, qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas supporté de la prothèse phonatoire. Et donc, ces patients vont pouvoir parler grâce à cet appareil, mais avec une voix qui est vraiment une voix de robot. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut, dans certains cas, dans certaines situations, rendre service. Parce que c'est compliqué parfois, surtout quand on vit seul, de ne pas pouvoir parler.
Et c'est un appareil qui se pose, qui est externe.
C'est un appareil, comme un appareil électrique en fait. Ça ressemble un peu à un rasoir, mais évidemment, ça n'envoie pas d'électricité. Et en fait, ça se pose sur le cou. Ça va transmettre par l'appareil les efforts de phonation du patient, et ça va être transmis et ça va donner une voix de robot. C'est pas très joli, mais efficace.
C'est pris en charge par la Sécurité sociale ?
Oui, bien sûr.
Totalement ?
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup, professeur Béatrix Barry, pour toutes vos réponses aux questions de l'association Corasso. Je rappelle que vous êtes chef du service ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Pichat à Paris. Au revoir.
Au revoir. Corasso.org.